Il est midi 30 en temps universel, 2 heures de plus ici à Paris. Et c'est l'heure d'Afrique Midi avec vous, Paul Longsens-Spinelli.
Avec à la une cette concession de Joseph Kabila à Kinshasa visée par des perquisitions depuis mardi. L'un des objectifs de cette opération, c'est la recherche de matériel militaire présumé volé. L'ancien président congolais qui a annoncé son retour prochain en RDC est accusé par l'actuel dirigeant Félix Tshisekedi d'être le véritable chef de l'AFC M23, soutenu par le Rwanda et actif dans l'est du pays. La RDC également marquée par ce nouvel accident de baleinier. Le navire a pris feu mardi sur le fleuve Congo dans la province de l'Équateur, faisant au moins 140 morts. La discorde entre le Niger et le Nigeria semble s'étioler avec cette visite hier du chef de la diplomatie nigériane à Niamey. Et puis reportage à suivre auprès de la diaspora algérienne de Marseille dans le sud de la France qui craint les retombées de la crise diplomatique entre Paris et Alger. Déjà pris dans des turbulences politiques, Joseph Kabila est aussi dans le collimateur de la justice congolaise. Le président Félix Tshisekedi soupçonne son prédécesseur d'être la véritable tête pensante de l'AFC M23, le mouvement politico-militaire soutenu par Kigali et actif dans l'est de la RDC. L'ancien dirigeant, lui, avait annoncé il y a 2 semaines son retour prochain sur le sol congolais. Mais depuis mardi, nouvel événement, l'une des propriétés de Joseph Kabila fait l'objet de perquisitions, Patient Ligaudi.
Les perquisitions ont débuté mardi dans une concession située dans la commune des Limété à Kinshasa. Il ne s'agit pas d'un lieu d'habitation mais d'un site abritant des bureaux, des dépôts et des conteneurs dont certains appartiendraient à des hommes d'affaires, notamment indo-pakistanais. Selon des sources proches de la famille Kabila, les premiers agents parmi lesquels des militaires seraient arrivés sans présenter des documents officiels. Hier, les services de renseignement civils et militaires sont revenus, cette fois munis d'un ordre d'émission. Leur objectif, rechercher du matériel militaire présumé volé. Un avocat de la famille Kabila était présent sur les lieux. On apprend également qu'au moins 4 militaires passent la nuit sur place depuis le début de l'opération. Ils ont exigé des documents administratifs concernant certains véhicules trouvés dans la concession. Les perquisitions devraient se poursuivre aujourd'hui. Selon des sources de la famille, une nouvelle opération serait également prévue au parc de la vallée de l'Antsélé, aussi connu sous le nom de parc animalier de Kingakati, où se trouve l'une des principales résidences de Joseph Kabila. Cette série de perquisitions intervient alors que plusieurs membres de la famille Kabila, dont l'ancienne première dame, sont actuellement absents du pays.
Patient Ligaudi. En RDC toujours, cette nouvelle tragédie sur une liaison de transport fluvial. Mardi, une baleinière a pris feu sur le fleuve Congo au large de Bandaka, c'est dans la province de l'Équateur au nord du pays. Le navire accueillait plusieurs centaines de personnes. Paulina Zidi, vous êtes notre correspondante permanente en RDC. Le bilan est très lourd puisque la société civile décompte plus de 140 morts.
Selon les informations recueillies mardi soir, vers 16h, une embarcation qui venait de quitter le port de Bankita à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, en direction du territoire de Bolomba, a pris feu. Le HB Kokolo a alors chaviré, emportant avec lui les centaines de personnes qui étaient à bord. Pas de bilan officiel encore, mais selon la société civile, il y aurait au moins 148 morts et de nombreux disparus. Difficile d'être plus précis, puisque le manifeste de bord qui recense les passagers n'a pas été retrouvé. Des équipes de la Croix-Rouge congolaise sont sur place pour venir en aide aux victimes. Certaines ont été brûlées lors de l'incendie et enterré rapidement les corps. En cause, selon un responsable de la société civile, la présence de stockage de carburant à bord, ce qui est normalement interdit par la réglementation.
Un drame qui intervient alors qu'une délégation de députés nationaux est en Équateur justement pour évoquer ces accidents réguliers en RDC et particulièrement dans cette province.
Oui, la délégation est arrivée hier à Mbandaka et doit se rendre aujourd'hui dans le lieu d'un précédent naufrage la semaine dernière, toujours dans cette même province. Cette fois-ci, c'est la baleinière HB Jados qui a sombré de nuit à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale provinciale. Depuis, les bilans divergent, plus de 50 morts selon les autorités provinciales, mais la société civile avance le nombre de 156 morts, dont 87 enfants, une centaine de rescapés, mais encore des disparus. D'ailleurs, les opérations de recherche se poursuivent toujours avec les équipes de la Croix-Rouge, la société civile qui demande à Kinshasa des mesures fortes et notamment la suspension du commissaire fluvial.
Merci Pauline Azidi. Coincée entre la République démocratique du Congo et le Congo Brazzaville, l'avenir proche d'une exclave angolaise s'inscrit dans la paix. Le Front de libération de l'État de Cabinda a en tout cas annoncé lundi un cessez-le-feu unilatéral de 2 mois. Cette décision du FLECFAC vise à soutenir une proposition du parti d'opposition UNITA sur l'autonomie du Cabinda et à créer un espace de discussion avec le gouvernement de l'Angola, Lisa Fabian.
La trêve annoncée par le FLECFAC vise à créer les conditions d'un éventuel dialogue avec le gouvernement angolais et à laisser une chance à l'initiative de l'UNITA. Ce cessez-le-feu est présenté comme un point d'entrée pour de possibles négociations plus poussées. Le président du mouvement indépendantiste, Emmanuel Nzita.
Depuis des décennies, nous tentons de parler avec les Angolais. Nous avons lancé 4 propositions nous-mêmes. Il est bien spécifié dans cette expression de cesser le feu. Toute violation des territoires d'où nous occupons peuvent être objet de légitime défense.
Avec son projet, l'UNITA souhaite consolider la paix et offrir une autonomie politique et administrative élargie au Cabinda. Navita N'Golo, vice-présidente du groupe parlementaire UNITA, met en avant un processus inclusif et pacifique essentiel.
Les populations de varias zones de la province de Cabinda.
Les habitants de la province de Cabinda vivent dans la peur. Ils doivent parfois abandonner leur zone de vie à cause de l'instabilité militaire qui persiste entre les forces armées angolaises et les forces du FLECFAC.
Le MPLA, le parti majoritaire en Angola, a réagi. Ses responsables rejettent ce cessez-le-feu puisqu'ils estiment qu'il n'y a pas de conflit armé dans le Cabinda.
Lisa Fabian, l'idée d'une intervention militaire après le putsch au Niger, portée par le Nigeria et déportée par le Nigeria semble désormais bien lointaine. Hier, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria effectuait en effet une visite officielle à Niamey. Si le chef d'état-major nigérian avait fait le déplacement déjà en août dernier, c'était la première fois depuis le coup d'état contre Mohamed Bazoum en juillet 2023 qu'un officiel civil se rendait dans la capitale nigérienne. Youssouf Maïtama Tougar a donc été reçu par son homologue nigérien Bakary Yahou Sangaré. Et le communiqué commun qui est ressorti de leur rencontre acte le rapprochement entre les deux pays, Magali Lagrange.
Relations chaleureuses, amicales, de fraternité et d'amitié, selon le communiqué commun, c'est dans la ferveur et l'enthousiasme que le ministre nigérian des Affaires étrangères a été accueilli à Niamey. Un ton qui contraste avec la méfiance ouvertement affichée par les autorités nigériennes envers le grand voisin du Sud depuis le coup d'État. Contact renoué, les deux pays qui partagent 1500 km de frontières listent désormais les nombreux domaines dans lesquels ils veulent resserrer leurs liens. Économie et sécurité notamment, même si le Niger a quitté la CDAO et la force multinationale mixte active dans la région du lac Tchad. Redynamisation de la commission mixte nigéro-nigériane de coopération, questions énergétiques, construction du gazoduc transsaharien, Niamey et Abuja veulent aussi unir leurs forces pour combattre le terrorisme. Les deux ministres se donnent rendez-vous au Nigeria pour une prochaine visite dont la date n'est pas encore fixée. Le chef de la diplomatie nigériane n'a en revanche pas vu le général Abdourahman Chiani, à qui il apportait un message du président Bola Tinubu, message qu'il a finalement transmis au premier ministre nigérien, Ali Mahaman Laminzen.
Magali Lagrange est dans quelques minutes sur RFI pour prolonger le décryptage de ce réchauffement des relations entre le Niger et le Nigeria. L'universitaire Sédic Abba sera notre invité. Un ton toujours aussi musclé, une ligne dure à ne lâcher sous aucun prétexte. Pour Bruno Retailleau, il faudra monter en puissance si Alger refuse toujours d'accueillir ses ressortissants que la France souhaite expulser. Le ministre français de l'Intérieur qui se disait même ce matin grande cible du régime algérien. Cette crise diplomatique, elle inquiète aussi en partie la diaspora algérienne qui vit en France à l'occasion du forum Ancrage à Marseille. Événement invitant à imaginer de nouveaux liens entre la France et l'Afrique. Christina Okello a tendu son micro à ceux dont l'identité est lié à la France et à l'Algérie.
Cuisine comorienne, manga africain, offre d'emploi, au forum Ancrage, on célèbre la richesse culturelle des diasporas et leur rôle dans le dialogue entre l'Afrique et la France. Mais au milieu de cette effervescence, la crise Paris-Alger inquiète. Sarah, qui lui, est une étudiante franco-algérienne.
J'ai peur que justement avec ce qui se passe en Algérie, nous on empathise dans le sens où ce sera nous les souffre-douleurs.
Qu'est-ce qui vous inquiète dans cette crise?
Le traitement qu'ils vont réserver aux Algériens dans les administrations, alors qu'on n'a rien à voir, enfin, c'est des sortes de politiques, mais on n'en a rien à voir et nous sommes des Franco-Algériens.
Nordine Idri, créatrice de contenu à Marseille, s'interroge sur les conséquences de cette crise sur le quotidien.
C'est vrai que je me pose des questions. Comment ça va se passer au niveau économique, au niveau de l'immigration, du tourisme. J'espère qu'on va un peu renouer les liens des deux côtés, vu qu'à Marseille déjà il y a une grosse communauté algérienne. C'est vrai que ça serait cool que ça se reficelle un peu. Ouais.
Mais d'autres comme Saïd Sarji, président d'association, préfèrent garder leur distance.
La vérité, ça ne m'inquiète pas parce que je sais que entre la France et l'Algérie, c'est une longue histoire. Donc nous, les jeunes, on préfère pas s'en mêler, on laisse ça à la politique.
En déplacement au Forum Ancrage, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exclu toute rupture avec Alger, tout en assumant la fermeté et la réciprocité de la réponse française. Christina Oekelo, Marseille, RFI.
Cet écart grandissant entre Paris et Alger, il contraste avec la quasi lune de miel entre la France et le Maroc. L'été dernier, Emmanuel Macron avait annoncé le soutien français au plan d'autonomie marocain du Sahara occidental. Et hier, l'ambassade de France dans le Royaume a annoncé l'ouverture prochaine d'une extension du service de recueil des demandes de visa à Laayoune, la principale ville du Sahara occidental justement. Cela ne va pas passer par l'ouverture d'un consulat, mais par l'entreprise privée TLS Contact, François Mferkataji.
Avec l'ouverture annoncée de cette antenne de l'entreprise privée TLS, qui assure la gestion de services consulaires pour le compte de l'État français, la France pourrait avoir trouvé une parade juridique tout en posant un acte diplomatique fort. Au Sahara occidental, la question de l'ouverture d'un consulat est délicate en raison de l'enjeu politique, diplomatique et juridique autour de ce territoire disputé et considéré comme non autonome par l'ONU, mais largement contrôlé par le Maroc. Depuis l'été dernier, la position de la France a évolué sur ce dossier. Paris se tient désormais pleinement aux côtés de Rabat et affirme que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce centre TLS ne constitue pas en soi une emprise diplomatique. Au mois de juillet dernier, la ministre de la Culture française Rachida Dati avait effectué une série de visites au Sahara occidental et avait annoncé l'ouverture d'une alliance française dans cette même ville de Laayoune. Là aussi, il s'agit d'un centre culturel et non pas d'une représentation diplomatique directe. L'ambassadeur de France précise que cette extension de TLS pourrait être opérationnelle dès le mois de mai prochain. François Mferkataji, Casablanca, RFI.
Le premier producteur d'or du continent se débarrasse d'exploitants étrangers. À partir du 1er mai, au Ghana, ces sociétés devront quitter le marché de l'or artisanal. C'est ce qu'a annoncé le Ghana Gold Board, l'organisme public chargé de contrôler l'exploitation du métal jaune. Ce qu'il explique, c'est qu'Accra souhaite tirer plus de revenus de ses mines, alors qu'une partie lui échappe à cause de réseaux de contrebande. Une décision qui s'inscrit dans une politique initiée par John Dramani Mahama, le président ghanéen. Alexis Bédu.
Accra cherche à rationaliser les achats d'or et à éviter la fuite des capitaux. Jusque-là, toutes les sociétés locales comme étrangères étaient autorisées à acheter et à exporter l'or de ces mineurs artisanaux. À partir du 1er mai, c'est la Gold Board, une organisation publique qui est la seule autorisée à acheter, vendre et exporter cet or artisanal. En 2023, 34 tonnes d'or produites dans les mines artisanales du pays ont été déclarées. Il y en aurait en fait le double selon les experts de l'organisation de coopération et développement SwissAid, a un manque à gagner important pour les caisses de l'État. Les étrangers doivent donc quitter le marché. Dans le viseur, les sociétés et entrepreneurs chinois qui ont pris une large part du secteur de la mine artisanale dans le pays. Ils étaient près de 50 000 Chinois actifs sur ces gisements ghanéens selon des estimations du South China Morning Post datant d'il y a une dizaine d'années. Le gouvernement serre donc la vis. Le ministre des Finances expliquait en janvier que ces nouvelles recettes aurifères devraient permettre de stabiliser la monnaie nationale, le CEDI en perdition depuis plusieurs années.
Alexis Bédu. En football, après la Ligue des Champions, hier, les soirées de gala s'enchaînent. Suite ce soir des quarts de finale, retour de la Ligue Europa Conférence après sa victoire 2-0 à domicile contre les Polonais de Jagiellonia Bialystok. Le Betis Séville se déplace en Pologne et les Andalous espèrent une nouvelle performance de leur star congolaise. Cantonné au banc des remplaçants en championnat, Cédric Bakambou est pourtant inarrêtable dans la compétition européenne, Sofiane Amazian.
C'est tout le paradoxe vécu cette saison par Cédric Bakambou. Décisif lors du quart de finale aller contre Bialystok, le buteur de 34 ans porte désormais son total de réalisations en Ligue Europa Conférence à 6, soit 2 de moins que le natif de Luanda, Afimiko Pouloulou, meilleur artificier de la compétition. Buteur lors de 4 des 5 derniers matchs de Coupe d'Europe cette saison, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille est un des premiers noms cochés par l'entraîneur Manuel Pellegrini depuis la fin d'année 2024, un retour en forme salué par le coach chilien.
Cédric Bakambou s'entraîne très bien depuis plusieurs semaines déjà. Je le sens plus concerné, plus en phase avec les objectifs du club. Il s'est bien remis de sa longue blessure, il se sent mieux physiquement. Il faut que son implication se convertisse en but pour son équipe.
Cette saison, Bakagol n'est pas aussi tranchant que dans ses belles années. Seulement 9 buts marqués en 34 apparitions et une longue blessure qu'il a tenue loin des pelouses jusqu'à la mi-septembre 2024 et dont il a fallu se remettre. Résultat, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection congolaise avec 16 buts se contente d'un rôle de remplaçant en championnat barré successivement par le Brésilien Vitor Roque puis le jeune Cucho Hernandez depuis février. Difficile de se faire une place chez l'actuel 6e de la Liga, le salut passe donc par la Ligue Europa Conférence pour Bakambou qui est devenu le meilleur buteur du club en Coupe d'Europe sur une saison.
Sofiane Amazian. Entre la boule à facettes et les platines, une discothèque peut aussi porter un message engagé. Toute la semaine, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, se tient à Abidjan. 17e édition de l'événement, mais cette année en avant le thème du civisme et de la sécurité routière. Et comme tous les ans, un pays est aussi à l'honneur cette année, c'est la Guinée-Conakry. Hier soir, une soirée était organisée en l'honneur de la Guinée-Conakry à l'Institut français Guillaume Thibault.
Puissance et volupté. Lorsque la Guinée présente ses plus beaux atouts, la danse, le conte et la musique rayonnent. Et la voix de ses acteurs, comme celle de Souleymane Bangoura, alias Soul Bang, prix Découverte Terrifié en 2016, résonne.
C'est une immense fierté, ça nous plonge encore dans la joie. Ça nous fait comprendre à nouveau que la musique est toujours un vecteur d'union.
Ancrée dans cette soirée, la communauté des griots, avec notamment le maître de la kora, Bassissoko, ému de représenter son pays, la Guinée, au FEMUA.
Ça me fait plaisir vraiment d'être là. Magic System qui invite la Guinée, Guinée qui parraine le festival. La musique d'abord mandingue, ça fait lien entre deux peuples.
Cette belle soirée a aussi mis en avant les femmes, les danseuses et la griotte Namamba Kanté, qui sait que sa musique a un rôle diplomatique, qu'elle rôtisse les liens séculaires entre la Guinée et la Côte d'Ivoire.
Il y a eu des tensions entre ces deux pays. Donc aujourd'hui, la musique renforce vraiment ce tissu, ces liens diplomatiques entre ces deux pays. Donc la musique n'a pas de frontières.
Guillaume Thibault, Abidjan, RFI.
RFI, 14h48 à Paris. Tout de suite, les titres de l'actualité internationale, Clotilde Dumay.
Le président français et le chef de la diplomatie américaine s'entretiennent en ce moment même à Paris. Emmanuel Macron et Marco Rubio en discussion sur le conflit en Ukraine. Volodymyr Zelensky appelle à faire pression sur le Kremlin pour mettre fin à la guerre. Israël n'a pas respecté la trêve à Gaza. La charge lancée aujourd'hui par le Qatar, médiateur dans les négociations avec le Hamas. L'État hébreu a repris son offensive après le cessez-le-feu conclu en janvier. La défense civile palestinienne rapporte d'ailleurs au moins 40 morts aujourd'hui après de nouvelles frappes israéliennes. Washington et Téhéran ont peu de temps pour parvenir à un accord sur le nucléaire, prévient Raphaël Grossi. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en Iran avant de nouvelles discussions samedi avec les États-Unis. Et puis l'Église de France assure qu'elle va se rapprocher du Vatican pour faire la lumière sur les nouvelles révélations concernant l'abbé Pierre. Dans un livre enquête publié aujourd'hui, deux journalistes expliquent avoir consulté des archives du Vatican montrant que le Saint-Siège était au courant dès l'automne 1955 des agissements du prêtre français. Un accueil réalisé dans la ferveur et l'enthousiasme. L'expression est issue du communiqué commun publié par le Niger et le Nigeria après la visite hier à Niamey du chef de la diplomatie nigériane Youssouf Maitama Tougar. C'est la première fois qu'un tel déplacement est organisé depuis le coup d'État au Niger de juillet 2023. Les relations s'étaient alors soudainement glacées entre les deux voisins. Mais après des mois de prise de distance, l'heure semble donc au réchauffement. Pour en parler, Paul Lonsin-Spinelli, vous recevez l'universitaire Cédric Abba. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel.
Bonjour Cédric Abba.
Bonjour.
Il y a un mois, l'oléoduc Niger-Bénin qui longe la frontière nigériane a encore été saboté jusqu'à récemment. C'était l'un des gros nœuds qui entravait cette relation Niger-Nigéria puisque la junte nigérienne soupçonnait son voisin de jouer un rôle dans ces attaques. Pourquoi est-ce que, d'après vous, le réchauffement entre les deux pays intervient à ce moment-là précisément ?
Je crois que c'est la dictature du pragmatisme. Chacun des États a compris qu'il avait besoin l'un de l'autre pour pouvoir avancer, à la fois sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Vous avez évoqué l'oléoduc, mais à mon avis, le contentieux le plus important était le choix que le Nigeria a fait après le renversement du président Bazoum de vouloir intervenir militairement pour le rétablir. L'épisode de l'oléoduc est venu après. Aujourd'hui, chacun des pays a évalué ses intérêts et a compris qu'il valait mieux rétablir la confiance et avancer sur le agenda différent sur le plan économique, politique et même humain.
Justement, à quel point cette brouille, elle a impacté les liens économiques entre les deux pays ? Et est-ce que d'après vous, il y avait vraiment urgence à rétablir ces liens sur ce plan ?
Ah oui, il y a urgence. On a pu le voir dans l'épisode d'il y a 3 semaines, quand le Niger a connu une pénurie de carburant d'une dimension inédite, il s'est retourné non pas vers un autre pays, mais vers le Nigeria pour que le carburant puisse être acheminé au Niger et rétablir la disponibilité du carburant dans les stations d'essence. En dépit de toute la brouille qu'il y a eu par le passé, les échanges économiques n'ont pas changé. Je souligne simplement que sur les 8 régions administratives du Niger, 5 sont frontalières du Nigeria. Et c'est entre les deux pays 1500 kilomètres de frontière. C'est la frontière la plus longue sur les 7 frontières que le Niger compte et c'est la frontière la plus active sur le plan économique. Donc, c'est dire l'intérêt qu'il y a pour le Niger et le Nigeria de se rabiboucher après l'épisode de la guerre froide qu'il y a eu entre les deux pays.
Et on sait que les deux pays partagent aussi de grands projets d'infrastructures.
Absolument. Et je crois qu'il y a un projet structurant. C'est celui d'amener le chemin de fer jusqu'à Maradi, qui est la capitale économique du Niger. Vous savez, le Niger est un pays enclavé qui ne dépend pour ses importations et ses exportations du port de Cotonou et de Lomé. Le port de Cotonou étant actuellement fermé, inaccessible en raison de la fermeture de la frontière. Le port de Lomé étant difficilement accessible parce que le Niger n'ayant pas de frontière avec le Togo, il faut passer par le Burkina, qui est confronté à une situation d'insécurité. Le fait d'amener le chemin de fer jusqu'à Maradi par le Nigeria, financé d'ailleurs par le Nigeria, va permettre le désenclavement du Niger et sans doute permettre aux régions de Maradi et Zender, qui sont des régions principalement économiques, de reprendre leur dynamisme. Il y a les projets aussi de construire des routes. Il y a eu déjà des ponts qui ont été construits entre les frontières des deux pays, c'est dire qu'il y a des projets structurants sur lesquels travaille le pays et il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Nigeria fournit à l'heure actuelle au moins 60% de l'électricité consommée au Niger. Donc vous voyez toute la dimension et la vitalité des relations économiques entre les deux pays.
En début de mois, le Niger a aussi quitté la force multinationale mixte du lac Tchad sur le dossier sécuritaire. Pourquoi, d'après vous, Niamey préfère traiter de façon bilatérale avec le Nigeria, qui est par ailleurs un poids lourd de cette force anti-djihadiste ?
Oui, je crois qu'un des éléments qui a pu accélérer, à mon avis, l'arrivée du chef de la diplomatie nigériane à Niamey, c'est le retrait du Niger de la force mixte multinationale qui est basée en N'Djamena et qui opère sur les 4 pays du bassin du lac Tchad. Parce que le Niger est un contributeur important et l'armée nigérienne s'est illustrée dans sa participation. Donc le Nigeria avait besoin de cette présence de la force du Niger dans la force mixte multinationale. Et il y a, lorsqu'on sort du lac Tchad aussi, des défis sécuritaires entre le Niger et le Nigeria. Vous savez, il y a un mouvement terroriste récent, le Lakrawa, qui a l'ambition de s'installer entre les régions du Niger et du Nigeria, particulièrement dans la zone de Dosso, de Birnin-Kebbi. Et sur ce plan, jusqu'à la région de Maradi, avec Madarounfa et les villes frontalières du Nigeria, le Niger et le Nigeria ont besoin de coopérer. Aucun de pays ne peut isolement faire face à ces défis sécuritaires. Et il était important justement de rétablir la confiance pour que les armées puissent travailler ensemble. Parce que l'épisode du post-coup d'État a affecté les relations qu'il y a entre les différentes armées. Et je pense que la redynamisation, le réchauffement va permettre le partage de renseignements, les interventions, les patrouilles mixtes communes, tout ce qui peut contribuer à rétablir la paix et la sécurité sur la frontière commune.
Vendredi, le Nigeria a de nouveau réclamé la libération du président nigérien déchu Mohamed Bazoum. Est-ce que ce point a pu être abordé lors de la rencontre d'hier, selon vous ?
Non, je pense que ça a pu l'être parce que le Nigeria est resté constant sur sa revendication, sur sa requête d'obtenir la libération du président Bazoum. Le président du Nigeria est actuellement le président en exercice de la CDAO. Or, la libération de Bazoum est une constante de l'organisation sous-régionale. Il me semble que ce point a pu être abordé parce que le réchauffement va se faire sur une relation donnant-donnant. Le Nigeria va demander la libération de Bazoum. Le Niger va aussi demander un certain nombre de choses au Nigeria. Je crois que ce point n'a pas pu être esquivé et à mon avis, les deux pays ont pu discuter justement de la possibilité de libérer le président Bazoum.
Merci, Sedi Kaba. Un entretien à retrouver sur RFI.fr. Un travail acharné pour offrir du maïs à tout le Congo Brazzaville. 2025 marquera en effet la première récolte de cette céréale dans la zone agricole protégée de Bouansa. C'est dans le sud du pays. Les zones agricoles protégées avaient été lancées il y a 4 ans par le gouvernement pour diversifier l'économie et le concept commence à porter ses fruits. Reportage de notre correspondant Loïcia Martial pour Afrique Éco.
Dans la plaine de Bouansa, les paysans de la zone agricole protégée, tous de vert vêtus, observent le travail de la moissonneuse-batteuse sur près de 60 hectares de maïs. La superficie étendue a été cédée par l'État aux agriculteurs de la région pour qu'ils y plantent la céréale. L'un d'eux, Alain Roger Mabika, a été désigné président de la zone agricole protégée. Il espère que les rendements progresseront avec les années.
Bien, ici nous n'avions produit que le maïs, rien d'autre que le maïs. En dehors du maïs, nous n'avons rien produit d'autre. L'estimation, on peut dire, déjà par hectare tel que je vois là, par hectare nous pouvons faire au moins 3 tonnes. Et si nous prenons 3 tonnes par hectare, ça veut tout simplement dire que nous devons donc nous retrouver avec près de 180 tonnes que nous pouvions donc avoir ici. Et donc, c'est pour nous une façon d'aider ceux-là qui font de l'industrialisation.
Après la récolte, le maïs est stocké dans un endroit bien protégé. Il sera ensuite vendu aux sociétés brassicoles et aux éleveurs qui en manquent souvent. À ce jour, les importations d'alimentation humaine et animale sont évaluées à 600-700 milliards de francs CFA. Près de 300 agriculteurs ont planté du maïs à Bouansa.
Nous produisons beaucoup ici. Nous ne sommes pas des fainéants. Avec la main, nous travaillons et nous avons vraiment de la bonne production.
On plante les maïs, c'est pour nous soutenir. Ça nous aide, ça nous donne l'argent.
Les zones agricoles protégées ont déjà commencé à produire du manioc, des bananes, des tomates et du riz dans d'autres régions du Congo. Ce dont le président de la République s'est félicité à Bouansa.
Merci Mingi.
Merci de la façon dont vous avez suivi l'initiative lancée lors de la campagne électorale passée. Il faut qu'au Congo, l'agriculture aille de l'avant.
Merci Mingi.
À travers les zones agricoles protégées, les autorités espèrent lutter contre le chômage, contre la sous-alimentation et diminuer la facture des importations alimentaires. Loïcia Martial, de retour de Bouansa, RFI.
Et c'est la fin de cette édition d'Afrique Midi. À la réalisation, Sarah Berber, Pierre Vallée à la fabrication du journal et Laurent Chaffard à la rédaction en chef. Tout de suite, eh bien, vous retrouvez Clotilde Dumay pour la fin d'RFI Midi.
Et merci beaucoup, Paul Lonsin-Spinelli. On vous retrouve demain.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Dans notre émission Questions de femmes, questions de parents, le paludisme chez les enfants. Comment protéger les moins de 5 ans, groupe le plus vulnérable à l'infection?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Un jour au village,
Tenaï Traoré.
Inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité en 2023 en tant qu'ensemble de rituels de gouvernance, le Ngwon fait partie de l'identité culturelle des Bamouns du Cameroun. Que représente-t-il? Son instance démocratique, ses modes d'expression, nous en parlons ce week-end.
Un jour au village, avec Tenaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Dans la tradition chrétienne, Jésus, entre sa mort et sa résurrection, est descendu aux enfers. Une étape charnière dont le Nouveau Testament ne dit rien. L'auteur de BD Thierry Robin s'est engouffré dans la brèche. Il raconte ce qui a pu se passer en imaginant dialogues et décors, mais sans trahir les textes canoniques.
L'art de raconter le monde, avec Jean-François Cadet, samedi à 18h41 sur RFI.